On va commencer avec ça, Bezrat Hashem, notre quatrième cours sur la lettre numéro 26, page 288. D'accord? Parce que j'ai sauté un petit peu, il y a une partie du Kabbalah que je souhaitais, on va faire un petit peu à l'oral. Donc je voudrais rappeler rapidement le thème qu'on a commencé depuis le début de cette lettre, la lettre 26. On a expliqué d'abord, dans le premier cours qu'on avait sur la lettre 26, on avait expliqué la différence fondamentale qu'il y a entre le Zohar et la Gemara. Différence fondamentale. Qu'est-ce qu'on a expliqué? À part tous les détails qu'on a expliqués, ce qui ressortait, c'était que dans la Gemara, il y a beaucoup de questions et de réponses. C'est-à-dire que pour arriver à une conclusion, il faut d'abord passer par beaucoup de questions. Beaucoup de questions, beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'essais. On essaye beaucoup avant d'arriver à la conclusion. Donc alors que dans le Zohar, c'est pas comme ça. Dans le Zohar, on a expliqué, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponses, il n'y a pas d'objections, c'est direct droit au but. Donc on a posé une question au premier cours qu'on a fait. On a dit, comment ça se fait que dans la Gemara, quand on étudie la Gemara, il y a des questions et des réponses. A priori, quel est le symbole de la question dans la Torah? Alors on avait amené un texte dans le Zohar qui disait que la question c'est symbole de mal. Parce que c'est quoi une question a priori? A priori, hein, je dis bien, une question ça veut dire c'est quand il y a un blocage. C'est-à-dire j'essaye de comprendre quelque chose, il y a un blocage, donc quelque chose qui bloque la lumière divine. Donc comment comprendre la notion d'avoir des questions? Ça c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. D'accord? Ça c'est ce qu'on a expliqué donc il y a trois semaines, on va développer ça aujourd'hui. Ensuite, la semaine dernière, d'accord, un cours très important la semaine dernière, on a expliqué que, avant de comprendre ça, il fallait d'abord comprendre quelle est la définition de Assur Moutar. C'est un grand cours qu'on a fait la semaine dernière. On a expliqué que le terme Assur veut dire quoi, pour ceux qui se rappellent? Assur en hébreu, ça veut dire enchaîné, lié. Alors que Moutar, ça veut dire quoi? Libéré. Ça veut dire qu'en vérité, on a expliqué un grand chidouche la semaine dernière, très très grand chidouche d'Admor HaZaken, qu'en vérité, dans le monde, il n'y a pas de bon et de mauvais. Ça n'existe pas le mauvais, parce que Dieu ne crée pas le mal. Dieu n'écrit pas le mal. Seulement, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je ne peux pas tout manger? Pourquoi je ne peux pas tout faire? Parce qu'il y a des choses qui sont liées, il y a des choses qui sont déliées. Il y a des choses qui sont accessibles, il y a des choses qui maintenant ne sont pas accessibles. Mais il n'y a rien de mal. C'est-à-dire que le cochon, ce n'est pas mal. Le cochon, ce n'est pas accessible, donc puisque ce n'est pas accessible, je n'ai pas le droit d'y toucher. Mais la notion de mal, le mal absolu, n'existe pas dans la Torah. Parce que si on part de la base qu'il a été créé par Dieu, il n'y a aucune création de Dieu qui peut être le mal absolu. C'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Mais néanmoins, on a expliqué que dans le monde d'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut pas... Ça veut dire, c'est vrai que ce n'est pas du mal absolu, mais concrètement, étant donné que ce n'est pas accessible, donc on n'a pas le droit d'y toucher. Par exemple, on a posé la question la semaine dernière, si une personne veut manger du cochon, il va faire la bracha avant, la bracha après avec une grande kavana, est-ce qu'il a le droit?
Non.
Pourquoi il n'a pas le droit? Parce que c'est pas accessible.
C'est pas accessible.
Comme c'est pas accessible, bonsoir. On est toujours avec le cochon, hein. Le lardon,
bien,
voilà.
C'est bon sujet.
Arrive au bon moment, quoi, en fait.
Merci. La daffe au lardon, tu te rappelles ou pas?
Ouais, ouais,
très, voilà. Très avec la crème fraîche.
À la fin. Voilà. Sinon, au début, ça n'a pas de sens.
Donc, la question ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est très important. Ce qu'on a expliqué la semaine dernière, que il y a des choses, bonsoir, Razak, il y a des choses qui sont pas accessibles. Donc comme c'est pas accessible, t'as pas le droit d'y toucher. Sauf quand c'est la Torah qui te permet d'y accéder. Par exemple, Razak, par exemple, si la Torah me dit que quand tu es en danger, tu as le droit de manger. D'accord? Dans ce cas-là, quel est le dîn? Est-ce que j'ai le droit de manger ou est-ce que je dois manger? Ça c'est le thème qu'on était resté la semaine dernière. En tout cas, ce qui est clair, c'est quoi? Et c'est ce que je voudrais qu'on retienne, parce qu'il faut bien comprendre ces deux notions qu'on a expliquées. Deux notions qu'on a expliquées jusqu'à maintenant. Premièrement, on va devoir définir aujourd'hui la différence qu'il y a entre le Zohar et la Gemara. Pourquoi dans un, il n'y a pas de question, dans l'autre, il n'y a que des questions? Quel est le rôle de la question finalement? C'est Dieu qui cherche le questionnement. On dirait qu'on cherche le questionnement. Quel est le but du questionnement? Est-ce qu'un juif doit toujours se poser des questions? Pourquoi on doit passer par des questions? Pourquoi les choses ne sont pas claires? Pourquoi on doit toujours passer par des questions et on a bien compris et pas assez bien compris? Pourquoi toutes ces complications? C'est la première chose qu'on va développer aujourd'hui, deux secondes. Et deuxième chose qu'on va développer aujourd'hui, c'est le fait que, on va continuer sur la lignée de la semaine dernière, qu'on a expliqué qu'il y a des choses permises, il y a des choses interdites. Ce qui est interdit, c'est ce qui n'est pas accessible. Alors maintenant, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est que même ce qui n'est pas accessible, le fait même d'étudier les lois, quelque part ça devient accessible. J'explique ce que ça veut dire. Par exemple, on a dit tout à l'heure que, est-ce que j'ai le droit de manger du cochon aujourd'hui? Si j'ai pas de danger, est-ce que j'ai le droit?
Non.
Non. Pourquoi j'ai pas le droit? Parce que c'est assour. Assour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas accessible. Mais pourtant, j'ai le droit d'étudier les lois qui parlent de ça.
De la permission ou
l'interdiction? De la permission ou l'interdiction. Donc ça veut dire que j'ai pas le droit de le manger. Mais j'ai quand même le droit de tourner autour, d'en parler. Et ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est pour ça que j'écris dans le SMS que c'est autour avec Shavuot, bonsoir. ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est que quand on étudie quelque chose dans la Torah, le fait même de parler de quelque chose, ça crée une énergie très importante. Ça veut dire que par exemple, quand on va parler dans un cours, on va parler de ce qui est permis, de ce qui est interdit, même si on fait que en parler, le fait même d'en parler, on crée une relation avec cette chose-là. D'accord? On peut pas avoir quelque chose d'anodin, de dire j'en ai parlé, mais j'ai rien fait. On est d'accord? Alors, tu avais une question, vas-y. Attends d'abord, il y avait une question, excuse-moi. C'est perçu comme du mal, c'est pas du mal. Oui, c'est pas de mal qui vient de Dieu. C'est impossible. Quoi?
Oui.
C'est un mal. Il y a ou du bien caché ou du bien dévoilé. Il y a pas de mal.
Oui. De parler, c'est pas marqué que c'est interdit de parler. C'était marqué interdit d'en manger.
Oui.
Donc, toi, c'est permis de parler, mais non, j'ai pas eu d'interdiction de parler.
C'est ce qui t'explique. C'est vrai que c'est permis. Mais le fait même d'en parler, ça donne de l'importance à la chose. Comme il a dit, on gravite autour. Tu parles de ça. D'alachot, tout ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire ça. Le fait même d'en parler, ce qu'on va expliquer maintenant, quelque part, on est en train de tourner autour, ça veut dire que on l'attrape pour que dès que Dieu nous donnera le feu vert, on pourra rentrer dedans. Parce qu'il n'y a pas de mal. Est-ce qu'on est d'accord? Le mal absolu n'existe pas. Bon. Alors on y va, rabotaille. Page 288. David, on est prêt, on y va? Donc voilà, j'ai essayé, quand j'ai préparé ce cours, j'ai essayé de le... Comme on essaye en général de faire un rapport avec les fêtes qu'on approche, comme on s'approche de Shavuot, donc j'ai essayé de faire un rapport entre ce cours et la fête de Shavuot qui arrive pour expliquer l'importance du limoud à Torah. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors on y va. Donc je suis à la page 288 et on va prendre un Ve'a Maskil Yavin. Alors vous avez un grand tête à côté là, vous voyez, ceux qui ont le Ve'a Maskil Yavin, c'est aux deux tiers de la page. Il y a un point avant. D'accord. Alors on y va. Ve'a Maskil Yavin. Celui qui va réfléchir, Yavin, il va comprendre. Inyan Pele Gadol Mizemeod. Celui qui va réfléchir à ce qu'on vient d'expliquer, il va comprendre quelque chose d'extraordinaire, d'après ce qu'on vient d'expliquer. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Manasé Vashamay Mimal. Qu'est-ce qui se passe dans les cieux? Aliede Iyun Ubirur Alacha Psuka Mina Gemara Uposkim Rishonim Vacharonim. Là, c'est-à-dire que là, maintenant, on va pas parler maintenant de l'objet qui est interdit. Par exemple, imaginons que Dieu a dit, ça, t'as pas le droit de le manger. Et nous, on va faire maintenant des halakhot, on va passer des heures à parler de ça. De dire, est-ce qu'on peut le manger, est-ce qu'on peut pas le manger, on va parler de ça. Alors, qu'est-ce qui t'explique ici? Que le fait même qu'on va passer du temps autour de ça, quelque part, on va récupérer, alors écoutez bien, mais on va devoir s'accrocher aujourd'hui, on va devoir récupérer des étincelles qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi cette sorte des étincelles? Alors regardez.
Mais je te dis que Hachem a dit que c'est interdit, pourquoi tu veux qu'on se casse?
Mais il y a de la kdoucha.
Il n'y a rien.
C'est une mitzvah.
Interdit, ça ne veut pas dire impur. Interdit, ça veut dire inaccessible.
Ah, d'accord.
Mais c'est une mitzvah de ressasser. Tout
ce mais c'est une mitzvah d'en parler. J'en parle, concrètement. Ah bah oui. Quelque chose que tu veux pas en parler, il faut arrêter d'en parler. Quand tu te mets, tu n'arrêtes pas d'en parler, bah, c'est-à-dire qu'il reste dans ta tête. Ok. Alors on y va. Regardez. Manasé bashamay mimal aliyede iyun ubirur alachap suka mina gemara uposkim rishoni vacharonim. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel quand on va développer une alacha de la gemara et des poskim? Alors regardez ça. Je voulais vous donner un exemple. Excusez-moi, je cherchais une feuille.
Ça, il nous faut un exemple vivant pour expliquer ce que je vais expliquer.
Hein? Il faut faire un bois là. Tu sais,
moi,
c'est
pas.
Rappelle-toi.
Ouais, viens regarder.
Prends-en plusieurs. Pour là et là-bas.
Tu m'as bien vu.
Ouais.
Tu me verras plus.
Tac.
Pour le café?
Non, sinon.
Regardez. Ça, ce que je vous montre ici là. D'accord? Ça, c'est le cours de Gemara qu'on fait le mercredi matin. Et je voudrais vous montrer quelque chose. C'est un cours qui me tient beaucoup à cœur. D'accord? On va essayer de se concentrer. Regardez. Je vais vous montrer le développement de la Gemara. Comment dans la Gemara, comment pour arriver à la conclusion d'une halakha, on a eu plusieurs générations. Regardez. Ça, c'est ce qu'on fait le mercredi. Toujours, on prend un sujet et on va depuis le début. Au début, ça a commencé par quoi? Ça a commencé par un pasouk. Il y a un verset dans la Torah, d'abord de quoi on parle? Le thème c'est Ona'a. Ona'a ça veut dire ne pas blesser les uns les autres verbalement. Il y a un pasouk dans la Parasha Kedoshim. Ce pasouk dans la Parasha Kedoshim qu'on a lu il n'y a pas longtemps, il te dit Velo tenu ishatamito. Vous n'avez pas le droit de vous blesser les uns les autres. Le pasouk dans la Torah il fait combien de lignes? Vous voyez en haut? Une ligne. D'accord ? Tu fais une ligne. Ensuite, vient la Guémara par derrière. Pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire blessé. Qu'est-ce que ça veut dire son ami ? Qu'est-ce que ça veut dire blessé ? Qu'est-ce qu'on appelle une blessure ? D'accord ?
Tu parles par la mitzvah où il y a les faux poids et les fausses mesures.
Non. Juste, ça, c'est autre chose. Donc la Guémara va essayer de poser la question, qu'est-ce qu'on appelle une blessure ? Est-ce que c'est une blessure financière ? Est-ce que c'est une blessure par des paroles ? Est-ce que c'est une blessure, je sais pas moi, physique ? Est-ce que c'est une blessure avec le regard ? Est-ce que c'est un homme envers sa femme ? Est-ce que c'est un frère envers l'autre ? Ça veut dire quoi ? Donc la Guémara, elle développe. Donc vous voyez, dès le départ, on voit ici que le pasouk n'était pas clair. Il n'était pas clair, le pasouk. Donc on arrive dans la Guémara. La Guémara, d'abord, on a la Mishnah. La Mishnah nous donne des petits principes. Elle dit, voilà, on n'a pas le droit de se blesser verbalement. Donc très bien, on a appris que c'est une blessure verbale. On a appris que c'est quoi une blessure verbale ? C'est par exemple, aller voir un Baal Teshuva. Un Baal Teshuva qui me fait une remarque, qui me dit, ouais, tu devrais t'améliorer. Et je lui sors, t'as vu d'où tu viens, toi ? Qu'est-ce que tu me fais de remarques ? D'accord ? Là, tu viens de le tuer, le bonhomme. Je viens de faire un interdit de honneur. Ça, c'est la Gemara. D'accord ? Ensuite, quand on avance dans la Gemara, donc la Gemara rentre dans beaucoup de cas. Et après, alors je peux pas vous développer en quelques minutes des heures de cours qu'on fait le mercredi. Juste, je vous montre le développement. Après, on arrive au Shulchan Aruch. Pour ceux qui arrivent à voir d'ici, le Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch, après, il rentre dans des cas concrets. D'accord ? Il dit, par exemple, si je donne un surnom à mon ami, je l'appelle le gros, ou je l'appelle, etc. Et ben, le Shulchan Aruch, il développe. D'accord ? Il te dit, ça inclut. Donc, ça veut dire que le Shulchan Aruch, il parle de nouveaux cas qui n'étaient pas inclus ni dans le verset, ni dans la Gemara. Et c'est comme dans la justice. En se basant sur ce qui a été écrit, on essaye de répondre à des cas qui ne sont pas écrits. D'accord ? Ensuite, quand on avance, d'accord ? Un cas moderne qu'on a ici, parce que vous savez, je vous donne un exemple, on a plusieurs dizaines de cas modernes qu'on étudiera. Un cas moderne, c'est quoi ? Par exemple, une personne qui appelle une autre personne à 11h du soir pour l'embêter. Vous savez, aujourd'hui, maintenant, on a le numéro de téléphone qui s'affiche, mais à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, t'avais des gens, quand ils voulaient te casser les pieds, ils faisaient sonner le téléphone à 2h du matin. Et tu sais pas c'est qui appelle.
Hein ?
Bien sûr, je peux le faire, mais bon, c'est plus compliqué. D'accord ? Alors, la question qu'on se pose, est-ce que celui qui a fait ça, bien sûr, c'est pas bien, mais est-ce qu'il rentre dans l'interdit de Valtenu Ishotamito, ne pas blesser son ami les uns les autres ? Est-ce que ça s'appelle une blessure ? Alors, si c'est une blessure, est-ce qu'il peut demander à être dédommagé ? D'accord ? Dédommagé combien ? Dédommagé comment ? Donc, c'est des questions, tout ça. C'est des questions compliquées. Ça, c'est ce qu'on appelle le Iyun. Iyun, ça veut dire quoi ? L'approfondissement. Ça veut dire que la Torah est faite d'une manière que dès le départ, c'est pas clair. Et qu'après chaque génération, on doit chercher de développer, gratter, essayer de comprendre, essayer de trouver une halakha. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des cas modernes qui se posent. Et comment font les rabbanis pour trouver ces cas modernes ? Ils vont devoir chercher par rapport aux sources qu'il y a déjà, par rapport au Shulchan Aruch, par rapport à Maïmonide, par rapport à la Gemara, par rapport à la Mishnah, par rapport à toutes les sources qu'on a. Et ça, c'est une grande partie du temps des Talmidei Chachamim, ils passent à faire ça. Ça veut dire, c'est pas comme un texte qu'on va lire et qu'on retient par cœur. Pas comme en médecine, par exemple, qu'on te donne un texte, t'as les formules, tu retiens les formules et t'es calé, c'est bon. C'est pas un travail de mémoire. Il n'y a pas besoin de mémoire. C'est surtout un travail de recherche. On dirait qu'on est en train de chercher un trésor. Et ça, c'est le Zohar qui pose la question. Le Zohar, il dit, mais comment ça se fait que chaque fois qu'on étudie la Gemara, et tout celui qui a étudié la Gemara, je suis sûr qu'il va tout de suite comprendre ce que je vais dire, on a l'impression qu'on est en train de chercher un trésor. Qu'on cherche quelque chose, on cherche un trésor. Il dit, mais attends, excuse-moi, ton texte, fais-le clairement dès le départ. S'il est mal foutu, excusez-moi du terme, il est mal fait dès le départ, laisse-moi tranquille avec ton texte. Alors t'as un texte qui est pas très clair, on essaie de comprendre, est-ce que ce cas est inclus, est-ce que ce cas n'est pas inclus, mais il était pas clair ton texte dès le départ.
Peut-être qu'on se dit qu'on va trouver un secret.
Donc on dirait, c'est ce que je vais expliquer ici, on dirait que c'est voulu par Akadosh Baruch Hu, il y a une volonté de la part d'Akadosh Baruch Hu, que le Ham Israël cherche un trésor. Quand on est en train d'étudier la Torah et qu'on cherche un trésor, chacun va trouver, et on trouve, quand on cherche on trouve, il se passe quelque chose en haut à ce moment-là. Ça veut dire, je veux bien comprendre ce qu'on va dire ici, quand on est en train d'étudier la Torah ici-bas, on est maintenant tous ici autour d'une page de Tania, par exemple. La page de Tania, elle a été écrite il y a 200 ans, 240 ans à peu près. Nous, on est là maintenant, on essaie de se casser la tête pour essayer de comprendre ce que la Gemara Zaken voulait dire. D'accord ? On aurait pu comprendre que, bon, le texte, de toutes les façons, il a déjà dit ce qu'il avait à dire, et nous, on essaye de comprendre. La réponse de la Torah te dit c'est faux, c'est pas ça ce qui est en train de se passer. En vérité, dans ces mots-là, il y a un trésor qui est caché. Il y a un trésor qu'il y a peut-être jamais personne, il y a peut-être des détails que jamais personne n'a pu voir. Pourquoi ? Parce que par rapport aux réalités qu'il y avait à l'époque, peut-être que, vous savez, un texte, tu le prends, tu l'adaptes par rapport à ton vécu. Eh ben, nous, quand on va étudier ça aujourd'hui, on va essayer d'adapter ça et de comprendre ce trésor par rapport à notre vie. Appliquez ça au Tania, appliquez ça à la Gemara, appliquez ça à ce que vous voulez. Eh ben, on cherche un trésor, et ce trésor-là, c'est un trésor que personne n'a jamais pu trouver, et que même en haut, ils sont pas capables de trouver. Il y a qu'un homme qui peut le trouver. Ça, je voudrais qu'on développe bien, parce que c'est un très très grand chidouche qu'on a dans l'étude de la Torah, ça. Il y a dans aucune autre science. Dans les autres sciences, la science, elle est déjà là, elle est déjà prête. Moi, j'essaye de la comprendre, je l'ai comprise, tant mieux, je l'ai pas comprise, tant pis. Nous, dans la Torah, on fait pas seulement que comprendre une science, on va découvrir des trésors qui n'ont jamais été dévoilés. D'accord? Alors, je sais que ça vous paraît un peu flou ce que je suis en train de dire maintenant. David va nous servir le chahim, on va mieux comprendre.
Voilà, j'ai oublié l'utilité. Les verres.
On va mieux comprendre.
Allez, les verres.
Lundi,
on va chercher des secrets, des trésors.
Oui.
C'est pour le mérite de alors. Ma fille, Esther Matmazatov, qui a été demandée en mariage.
Ah, Matmazatov. Le Chaim, le Chaim. Vous l'avez servi,
ça vous l'avez demandé à tout le monde.
Il a été servi ou pas?
Il n'a pas donné sa réponse. Hein.
On a juste à l'heure.
Allez.
Il n'a pas donné sa réponse encore. Il a été demandé d'aller.
Il a eu la réponse ou non?
Non, il a eu la réponse.
De... Bon, elle a été demandée, elle a été elle a accepté.
Elle a demandé la main. Allez, les Chaim, les Chaim, Mazal Tov, Mazal Tov.
Ça fait un peu anthropophage quand même de demander la main.
Pourquoi?
Ah ouais. Je crois que c'est bon d'accepter.
Je veux ta main.
Je vais vous raconter une histoire pour illustrer ce que j'ai rien expliqué ici. Parce que je sais que ça peut vous paraître un peu bizarre. On raconte qu'une fois. C'était dans un Beit Midrash. C'est une histoire que j'ai racontée, ça fait quelques années, je crois. On raconte qu'on était une fois dans un Beit Midrash. Et il y avait un rav, vous entendez? Il y avait un grand Talmid Chacham, qui étudiait la Gemara avec Rashi. Vous savez que dans Rashi, il y a des grandes profondeurs. Et à un moment, il est resté bloqué sur un commentaire de Rashi. Il n'arrivait pas à comprendre ce que Rashi voulait dire. Il est resté bloqué 3 jours sur ce commentaire de Rashi. 3 jours. Vous entendez? 3 jours. C'est-à-dire que bon, nous, on aurait zappé, lui, il zappe pas. Non, qu'est-ce que Rashi veut dire? Il est resté 3 jours bloqué dessus. D'accord? Il est resté dessus. Et Baruch Hashem, après 3 jours de réflexion, il dormait pas tranquillement, etc. Il a fini par trouver, à part comprendre ce que Rashi voulait dire. Ah, Baruch Hashem. Il est heureux comme tout. Écoutez cette histoire. C'est une histoire qui est racontée par le Arizal. Il est heureux comme tout.
Comment il sait qu'il a bien compris?
Parce qu'il a compris. C'est clair. Quand tu vois que ça rentre dans les mots, que c'est clair, que ça correspond à la Gemara, etc., t'as compris? Peut-être qu'il y a d'autres manières de le comprendre, mais en tout cas...
Tout seul.
Si, parce qu'il y a un texte, le texte pour le comprendre, il faut que ça corresponde au texte de la Gemara. En tout cas, il a compris. Et on parle pas de n'importe qui, c'est un grand Talmid Chacham. Quelques jours plus tard, c'est une histoire qui est racontée par le Arizal, quelques jours plus tard, ce même Talmid Chacham, qui avait compris et qui était heureux comme tout, j'ai compris ce que Shurasti voulait dire, il débarque au Beit Midrash, et il voit...
Il n'a rien dit à personne.
Attendez s'il vous plaît, laissez-moi parler.
Ouais.
Il voit une personne... Un simple enseignant en train d'apprendre avec un élève la même Gemara qu'il a étudié avec Rashi, avec le commentaire de Rashi. Alors il se met à côté, pas très loin. Il dit ceux-là, là, je vais les coincer, je vais voir comment ils comprennent la Gemara. Et il se met à côté, etc. Il écoute, et il attend qu'ils arrivent à ce Rashi là, et il voit le professeur, il lit le Rashi, et le professeur direct, tac, il explique le Rashi comme lui, ça lui a pris 3 jours pour comprendre. Dégoûté. Il est dégoûté. Alors il va voir son rav. Son rav, c'est le Arizal. Il lui dit, écoutez, il y a un problème. C'est soit lui, c'est un tzadik caché, soit j'ai une mauvaise méthode d'étude. Mais là, il y a un problème. J'ai passé 3 jours, l'autre, il a étudié comme ça avec un gosse et il découvre son rachis comme ça. Alors, son rav lui répond comme ça. Il dit, je vais t'expliquer. Il lui dit, ce rachis que tu as étudié, jusqu'à que tu l'étudies, personne n'a jamais compris dans l'histoire du monde. Il y avait un trésor dans ce rachis que personne n'a jamais compris. Écoutez bien. Toi, comme tu as forcé, tu as ouvert le robinet. C'est le terme qui est employé. Tu as ouvert le robinet. Et une fois que le robinet il est ouvert pour tout le monde.
Mais c'est 3 jours ou plus?
3 jours il est resté. 3 jours, l'histoire raconte 3 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Torah, il y a des trésors. Profondeur, de profondeur, de profondeur. Et quand moi je me casse, vous savez, des fois par exemple, ça m'arrive, je donne un cours, et je donne une explication, et il y a des fois un détail de l'explication qui dérange une personne. Moi, il me dérange pas ce détail. Moi, bon, ça me dérange pas, c'est comme ça. Et des fois, t'as une personne qui dit, non, mais ça me dérange. Pourquoi ça, c'est comme ça? Ce détail, ça le dérange. Bon, il pose la question, je dis écoute, moi ça me dérange pas, je vois pas vraiment le problème, donc on avance. Lui, ça le dérange. Il va gratter. Et avec ce détail qui l'a dérangé, il va trouver quelque chose que personne n'a trouvé avant lui. C'est ce qu'on explique tous les matins quand on dit que chaque fois quand on fait la tefila, on demande à Kadosh Baruch Hu, on lui dit Veten Chelkenu Betoratecha. On ne demande pas à Kadosh Baruch Hu seulement de comprendre la Torah. C'est déjà une grande bracha de comprendre la Torah. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner notre part dans la Torah de Dieu. Ça veut dire que chacun de nous a sa part dans la Torah. Chacun de nous, il y a des choses dans la Torah qu'il n'y a que lui qui peut comprendre. Que c'est lui qui doit les comprendre en premier. C'est comme une chasse au trésor avec des clés. D'accord? Il y a des choses, c'est des détails. Mais il y a des choses, il y a des perceptions qu'il n'y a que moi qui peux trouver. Il y a des choses que chacun de nous, il y a des détails qu'il n'y a que lui qui pourra trouver. Vous voyez que quand on étudie la Torah, quand je sais que je vous ai dit que ça peut vous choquer ce que je suis en train de dire ici, on n'est pas simplement en train d'essayer de comprendre un texte, on est à la chasse au trésor. On cherche un trésor, on cherche quelque chose de caché, on cherche quelque chose, et plus on avance, et plus on découvre ces petits trésors. Maintenant, la question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui, c'est pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a des trésors? Pourquoi directement, dès le départ, on ne donne pas les messages? Ça, vous allez voir, c'est extraordinaire qu'on les en explique.
Si tu me dis là, maintenant, ce sera plus important de chez Dagmara que Zohar. Sinon, Zohar, tu ne te poses pas la question.
Du tout. Zohar, c'est un livre.
Tu ne te poses pas la question. Il n'y a pas de question, il n'y a rien. Donc, tu ne peux pas rechercher et trouver ce trésor et découvrir des choses.
Non, c'est parce que dans Zohar, le secret, il est déjà dévoilé. Il est devant toi. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher. C'est tellement lumineux que c'est devant toi. On va expliquer.
C'est lumineux quand même.
D'accord, c'est
pas très lumineux, c'est pas la portée de tout le monde.
C'est extrêmement lumineux. Justement, c'est pas la portée de tout le monde, mais c'est extrêmement lumineux.
C'est pas la portée de tout le monde.
Ouais.
Donc c'est pas très lumineux.
Je t'expliquais. Quand il y a trop de lumière, tu es aveugle. Tu as déjà essayé de mettre tes yeux devant la lumière? Qu'est-ce que tu vois?
Rien, du blanc.
Du noir. Du noir, tu vois.
Des étoiles.
Ça veut dire que tu vois sombre.
Tu vois pas, quoi.
Parce que trop de lumière, d'accord, ça fait que tu vois noir. C'est la même chose. Le Zohar, comme on n'est pas équipé pour, donc du coup, nous on voit de l'obscurité. Mais en fait, c'est une lumière énorme. Bon, là, on va revenir à la Guémara maintenant. Je voudrais qu'on développe sur la Guémara. Alors, donnez-moi. Je vais relire si ça vous dérange pas. D'accord? Allez, on va mettre nos lunettes spéciales, Tania. Alors, si vous voulez bien, on va relire maintenant. Je reprends où j'ai commencé. À côté du grand tête. Ve'amaski yavin inyan pele gadol mise me'od. Celui qui va réfléchir, il va comprendre avec ce qu'on a expliqué quelque chose d'extraordinaire. Manase bashamay mimal. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Allier des iyun, quand je vais m'approfondir, ou birou alakha psuka, et quand on va rechercher une alakha. Ça veut dire, c'est pas simplement que j'essaye de comprendre le texte, il y a un cas qui se pose aujourd'hui, et la Gemara n'en parle pas, donc t'es obligé de te casser les pieds pour essayer de voir à quel cas de la Gemara ton cas ressemble. Il faut se casser les pieds, c'est un trésor qu'il faut rechercher. Il faut se casser les pieds pour essayer de faire comparer ce cas à ça ou à ça. C'est très compliqué. Mina Gemara, on va essayer de chercher dans la Gemara, ou poskim, dans les décisionnaires, rishonim, Ve'acharonim, dans les décisionnaires, on a les premiers décisionnaires comme Maïmonide, d'accord? Et on a les derniers décisionnaires, comme par exemple Shulchan Aruch. Ma'sha'aya be'elem davar kodem ayun alaz. Et on voit quand on étudie la Gemara, quand on étudie les textes. Alors aujourd'hui c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui on arrive à suivre la chaîne. Ça veut dire on arrive à suivre la chaîne depuis le Chumash, la Mishnah, la Gemara. Après on a les Géonim, après on a les Poskim, les décisionnaires. Après on a Maïmonide. Et on voit comment ça descend. Et on voit comment plus on descend, c'est comme une pyramide. Plus on descend et chacun il développe sur la base de ce que l'autre avait déjà fait. Et on voit que chacun découvre des choses que les autres n'ont pas découvertes. Ça, on le voit clairement. Il suffit d'étudier la Gemara pour le voir. On voit comment, quand tu prends la pyramide et tu vois d'où on a démarré et où on arrive à la fin, tu vois qu'on te montre qu'en vérité, tout était dans le point numéro 1. Seulement, dans le point numéro 1, tu ne le voyais pas. C'est comme dans la Torah, je vous ai montré tout à l'heure. Il y avait un passouk qui disait « vous blesserez pas les uns les autres ». Bon, un passouk, tu aurais pu le zapper, c'est fini. Quand on rentre après dans les détails, qu'est-ce qu'on voit? On commence à voir qu'il y a beaucoup de détails. On commence à découvrir des trésors. Et chaque génération, chaque fois qu'on va repasser, on découvrira des nouveaux trésors et des nouveaux trésors. Maintenant, écoutez bien ce qu'il va dire. C'est pour ça que je voulais qu'on s'accroche. Qui allié désé ma'alé à la chazom et à clipot. Ça peut vous choquer ce que je vais dire. Ça vient du Zohar. Moi, je ne me serais pas permis de le dire. En vérité, il y a beaucoup de halachot qui sont prises par les clipotes. Rappelez-vous ce qu'on a expliqué la semaine dernière. C'est quoi les clipotes? C'est des écorces. C'est quoi une écorce? C'est quelque chose qui bloque l'accès. Vous vous rappelez ce qu'on a expliqué la semaine dernière? Il y a des clipotes. Shalosh clipot atmiot. C'est une écorce que tu peux pas accéder. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est le cochon qui est interdit, etc. Il y a des choses que tu peux accéder. Maintenant, écoutez bien. Chaque fois qu'on essaye de trouver une halakha sur quelque chose qui n'est pas écrit, ou bien j'essaye, vous savez, des fois tu lis un texte, tu lis le Chumash par exemple de la semaine, et tu te poses des questions. Tu dis, mince, j'ai une question. Tu poses la question au rabbin, tu poses la question à tes amis. Les gens, soit ta question ne les dérange pas, c'est-à-dire que bon, ils te prennent mal à la limite pour un, d'accord? Ou bien, soit tu cherches un petit peu, tu as l'habilité pour chercher un peu les textes qui est autour et tu vois que personne n'en parle. Ça te dérange. Tu dis, attends, personne n'en parle. Et donc t'essayes de, tu vas creuser le ménage, tu cherches un trésor. Qu'est-ce qui se passe? Il te dit, en vérité, la réponse à ta question existe. Elle a été prévue par Moshe Rabbeinu quand il a donné la Torah. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Cette réponse, elle a été prise par les clipotes. Ça veut dire, cette réponse est entourée d'une écorce. Cette écorce, c'est ce qui fait que, là, on la connaît pas, la réponse. Quand toi, tu vas essayer de chercher la réponse à cette question, tu es en train d'enlever cette écorce. Et une fois que toi, tu l'auras enlevée, ad vitam aeternam, jusqu'à la fin des temps, une personne qui se posera la même question que toi trouvera la réponse instantanément. C'est extraordinaire, ça. Ça se transmet. On l'a vu dans l'histoire, ça. Ce que je vous dis, on l'a vu dans l'histoire. Quand il suffit d'étudier le développement de la Guémara, d'où on a démarré et où on arrive aujourd'hui après 2500 ans d'histoire, 3000 ans d'histoire, et on le voit, ça. On voit comme...
Il faut que tu l'écrives, cette réponse.
Pas besoin.
Si tu l'écris, il faut que tu l'écrives et que tu la publies, ou alors c'est...
Pas besoin.
Que
tu l'as c'est pas toi-même. Nécessaire. C'est pas nécessaire, parce qu'une fois que tu l'as découverte,
pour toi-même,
t'as fait sauter une écorce.
D'accord, mais pour toi-même.
Même si c'est moi-même.
C'est-à-dire toi face à un mur.
Tout le monde.
Je suis là dans la pièce.
Seul.
D'accord. J'avais un roumash, j'avais une question sur un texte de roumash. Je me casse les pieds dessus. Et après deux jours, je dis ah j'ai compris ce qu'il veut dire le roumash.
Ça a débloqué.
D'accord. J'ai débloqué.
D'accord.
J'ai débloqué un mode que personne n'avait développé jusqu'à maintenant.
J'ai débloqué un tableau.
D'accord. Et dorénavant, chaque personne qui passera devant instantanément le comprendra. C'est de l'acquis. Extraordinaire. Mais ça veut dire que. Pourquoi?
Ils recherchent pas ça les gens qui étudient.
C'est sûr ça.
À trouver.
C'est ça. Mais la nature des choses est comme ça. C'est que Dieu, il a fait en sorte que quand on étudie la Torah, il y aura toujours un chidouche qu'on va trouver. Impossible qu'on trouve pas de chidouche. On n'est pas simplement en train d'étudier un texte qui a été dit. Chacun aura sa petite part dans la Torah. Ça veut dire que, dites-vous que quand vous venez à un cours de Torah, vous n'êtes pas passif, vous êtes actif. Vous savez, des fois, sur un cours, sur une heure et demie de cours, d'accord? Des fois, on va retenir une minute. Il y a une chose qu'on va retenir. Pac, t'as un truc. Et des fois, c'est même pas la chose que celui qui a fait le cours, il voulait faire ressortir. Il a dit ça au hasard. Et t'as un truc qui t'a marqué qui va te faire réfléchir pendant des jours et des jours.
Ça a d'accord la même valeur si c'est vous qui les découvriez ou si c'est moi.
Pas du tout. Pareil. Il y a des choses qu'il n'y a que vous qui pouvez découvrir. C'est comme la chasse au trésor.
Ouais,
vous savez, les vraies chasses au trésor, il y a des choses qu'il n'y a que vous qui pouvez découvrir. Vous savez, c'est comme dans la chasse au trésor avec les cartes, etc. et les codes. Il y a des codes qu'il n'y a que vous qui pouvez
découvrir. Part dans la
personne ne pourra les découvrir à votre place. Personne. Impossible. Et vous pouvez les découvrir, attendez, j'ai pas fini. Vous pouvez les découvrir que ici-bas. En haut, c'est trop tard. Ça peut vous choquer ce que je dis, je sais que.
Non.
Nous, on peut se dire, attends, je suis pas rabbin, je suis pas. J'essaye de comprendre déjà un petit peu la Torah, t'es en train de me dire que j'ai compris des choses que personne n'a compris et je me sens James Bond, d'accord?
C'est ça ce que je veux dire. Est-ce que t'auras la même valeur que si c'est vous qui le dites ou si c'est moi?
C'est ce que je veux dire. C'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des choses qu'il n'y a que vous qui pouvez trouver. Personne d'autre pourra trouver.
Mais ce qui est bien, c'est que du fait que vous l'avez trouvé, vous n'avez pas besoin de le transmettre. On ne va pas tellement vous croire.
Du
il y a un autre grand, il va le comprendre, il pourra le transmettre.
Oui ou non? Alors justement, pas du tout. Parce que même en haut, c'est une bonne question que tu poses. Est-ce que les éléments qui n'ont pas encore été décryptés en bas? Vous savez encore, il y a beaucoup de cas. Pourquoi vous croyez qu'en Israël, il y a tellement de Beit Din? Il y a tellement de Beit Din et qu'on leur pose des cas et qu'ils passent des fois des journées à se casser les pieds pour essayer de donner la halakha. Parce que il y a beaucoup d'halakhot qui ne sont pas écrites et qu'on doit développer, qu'on doit chercher. D'accord? Eh ben, nous, ce qu'on doit savoir, c'est quoi? C'est que ces halakhot-là ne peuvent être recherchés qu'en bas. Vous allez voir, c'est très curieux ce qu'il va dire plus tard dans la suite du cours. La Gemara Zaken va dire que la yeshiva d'en haut est attentive à ce qui se passe dans la yeshiva d'en bas.
Mais tout ça, on l'avait vu.
Et elle attend. Non, attendez, doucement, ça, on l'a jamais vu ça. Ça, c'est des grands.
Oui, on a vu tout ce qui est en haut et ça vient d'en bas.
Doucement.
Pour arriver en haut.
Non, écoute bien, ce que je vais dire maintenant, je l'ai jamais dit. Écoutez bien.
Bah, si.
Ce qu'on va dire maintenant, c'est que l'étude, c'est que.
Justement,
à la yeshiva d'en haut, écoute bien ce que je vais dire.
Écoute bien
ce que je vais dire. C'est des grands chidushim, ça. À la yeshiva d'en haut, ils sont à l'affût des chidushim qu'il y a dans la yeshiva d'en bas.
Donc ils comptent sur nous.
Ça veut dire que là, maintenant, au même moment où on est en train d'étudier la Torah et d'essayer de comprendre, de se casser le pied sur un texte de Tanya, il y a des malachim qui sont en train de nous écouter en live pour essayer de voir si on n'a pas découvert un nouveau trésor ce soir.
Fais l'échange. Regardez les malachim, envoyez-nous les chutes du loto, nous on vous envoie les chutes.
Après, ils vont débrouiller. Quoi?
Bien
sûr.
En haut, il n'y a pas de chidushim.
En haut, ils peuvent pas faire des chidushim. Mais ils les comprennent, les chidushim. En haut, ils peuvent que analyser les images satellites. Ils nous regardent en bas. Et à un moment, ils voient une lumière. Dis, hop, va voir la lumière, va voir ce qu'il y a là-bas.
Mais, ce qui est découvert par l'informatique.
Amen.
Déjà,
bien sûr, 100%. C'était caché.
Mais le mot que tu emploies, découvert, c'est pas inventé, c'est découvert.
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est caché et on a enlevé le voile.
Le voile, oui, découvert, on a enlevé le couvert. Donc, qui a lié des ais, est-ce que c'est clair jusqu'ici?
Oui.
D'accord. Qui a lié des ais, c'est un très très grand chidouche, c'est pour moi ce pérec est très important parce que ça nous montre que quand on étudie la Torah, on n'est pas simplement en train d'essayer de comprendre quelque chose. On est en train de créer une nouvelle réalité. On est en train de découvrir un nouveau trésor que personne n'a jamais découvert. C'est extraordinaire. Qui a lié des ais, car grâce à ça, m'a allé à la chazo ma clipote. Mais ça se passe sans qu'on se rende compte. C'est comme ça. Qui a lié des ais, par le fait qu'on se casse les pieds. Mais attention, ça se passe pas quand on vient et qu'on reste comme ça. Il faut après se casser les pieds pour essayer de trouver quelque chose, pour trouver un trésor. M'a allé à la chazo ma clipote. Je fais monter cette alacha des clipotes. Ça veut dire que quand maintenant je me casse les pieds pour essayer de trouver quelque chose, en vérité, la réponse à ma question existe déjà. Elle a déjà été donnée à Moshe Rabbeinu au Har Sinaï. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Cette réponse est prise en captivité, entre guillemets, elle est couverte avec les clipotes, avec des écorces. Et moi, j'essaye de casser cette écorce. Des écorces comme ça, il y en a des milliards. Donc quand on a enlevé une écorce, eh ben après le suivant, il enlèvera la suivante, et la suivante, et la suivante. Et chaque fois, c'est les degrés de perception supplémentaires qui avancent. Chez l'Oaïta Yidouaklal, que dans les générations on voit, que des fois, soit on va découvrir des halakhot qui n'étaient pas connus. Par exemple, on va se poser une question, et on va montrer, t'as des rabbinis qui vont te montrer comment en vérité la réponse était écrite dans la Gemara. Comment elle était écrite? Elle n'est pas écrite dans son blanc, bien sûr qu'elle n'est pas écrite dans son blanc. Mais si tu compares ça et ça et ça et ça et ça, tu fais A plus B, etc., tu arrives à ça. Ça, il y a des fois des choses encore aujourd'hui qu'on découvre, qu'il n'y a pas dans les livres jusqu'à maintenant. Avec les grands maîtres qu'on a eus, les maîtres de la Gemara, les maîtres de la Mishnah, Maïmoni, le Shulchan Aruch, il y a des choses qu'on découvre aujourd'hui, soit qui n'ont jamais été découvertes, ou bien, écoutez bien, chez Lo Haitem ou Venet Etev Betahama, il y a des choses dans la Torah qui n'ont jamais été comprises. Et qu'aujourd'hui, on arrive à comprendre des choses dans chaque génération, on arrive à comprendre des choses qui n'étaient pas comprises avant.
Il y a une limite au trésor ou il y a
aucune limite. No limite.
Donc, imaginons que la vie, elle soit infinie.
Oui.
Imaginons que le Mashiach, il arrive dans l'infini.
Oui, bon.
Bon, d'accord. Donc ça veut dire qu'on va étudier la Torah à l'infini.
À l'infini.
Et donc on va découvrir à l'infini les trésors. Mais
bien sûr. Mais bien sûr.
Où tu veux en venir,
Mickaël?
Où tu veux en venir?
C'est évident. Hein. Ça suffit pas que ça fait 3000. On est pratiquement à 3300 ans d'histoire.
Mais c'est pas grave, c'est pas l'infini, c'est 3000. Mais
c'est énorme.
Okay, ça va.
Tu sais la masse d'énergie?
Oui.
Tu sais la masse de tête, la masse de cerveau qui s'est déjà concentrée, la masse d'effort, c'est énorme.
C'est un condensé, c'est synthétique.
La masse de cerveau qui sont déjà passés sur la Torah. Ça vient de l'infini, bien sûr.
Non, tu continues. Mais il y a des choses qui sont interdites et sont toujours interdites même quand on étudie. Donc ça va jamais prendre un truc de chidouche là-dessus.
Parce que ce qu'on a expliqué ici, c'est que le fait même d'étudier quelque chose d'interdit, ça c'est plus tard, j'ai pas encore développé ça. Le fait même d'étudier quelque chose d'interdit, la Torah t'a interdit seulement de le consommer. Mais elle t'a pas interdit de l'étudier. Donc le fait même que tu l'étudies, tu crées une relation avec cette chose-là. Donc tu dévoiles quand même des choses qui sont à l'intérieur. Mais ça je reviendrai plus tard, s'il te plaît. D'abord, je voudrais qu'on comprenne bien d'abord qu'est-ce qui se passe quand on étudie la Torah.
Donc les étincelles divines sont incluses dans les choses qui sont interdites.
Bien sûr.
Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr.
Que tu peux atteindre, écoutez, c'est très simple. Il y a des étincelles divines partout. C'est la notion même de la création du monde. Quand Dieu a créé le monde, on dit qu'il y a des étincelles qui se sont entre guillemets perdues partout.
D'accord.
Ils se sont perdus dans les aliments. Ils sont perdus même dans la Chorma, ça veut dire même dans des choses, même les étincelles de la Torah, elles se sont perdues un peu partout. C'est ce qui se passe quand il y a une question. Quand dans la Gemara on se pose une question, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on se pose la question? On se pose la question, ça veut dire qu'on est en train de chercher quelque chose qui est perdu. On sait qu'il y a un élément de réponse, on sait que la réponse existe, parce qu'on sait que c'est la Torah, c'est le bien, c'est clair que c'est, à la base c'était clair, mais aujourd'hui on le comprend pas. Donc on est en train de chercher un trésor qui est perdu, qui est caché. Et ça, oui, dans chaque génération, on trouvera toujours des nouveaux trésors.
Oui, mais si on doit, notre rôle, chaque juif, est de retirer les étincelles. Donc, pourquoi il nous l'interdit?
Non, c'est pas de les retirer.
Mais dis non. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas accessibles en mode, comment on appelle ça, en mode
avant ma chère.
Consommation. Mais ils sont accessibles par d'autres modes. Oui. Regardez, très simple, regardez. Imaginez par exemple, j'ai ici sur la table un reptile. Est-ce que j'ai le droit de le manger? Un reptile. Est-ce que j'ai le droit de le manger? Non. D'accord. Donc pourquoi j'ai pas le droit de le manger? Est-ce que dans ce reptile il y a une étincelle divine? Bien sûr, parce que sinon, elle n'existerait pas. D'accord. Alors pourquoi j'ai pas envie de le manger? Parce que l'étincelle divine qui est dedans, elle a tellement de clipa, d'accord, qu'elle n'est pas accessible par la consommation. Est-ce que j'ai le droit maintenant de parler de cet insecte, de dire que l'insecte il est comme ci et donc là la chèvre parle comme ça? J'ai le droit d'en parler. Le fait même que j'en ai parlé, j'ai créé une relation avec la chose. Le fait même de parler d'une chose, c'est une créer une relation avec la chose.
La Torah elle en parle.
Exactement. Donc ça veut dire qu'il n'est pas accessible en mode consommation, mais il est accessible par d'autres modes. Parce que chaque chose qui existe dans le monde, il y a une étincelle divine, obligatoirement.
Et quand il sera accessible en consommation, on libérera quoi si on l'a libéré par l'étude?
Non, tu n'as libéré que le mode étude. Le mode de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que je l'utilise. Si tu veux, le mode étude, simplement, on te donne la permission de comprendre la machine, mais pas de l'utiliser. C'est déjà pas mal. Ça me permet de comprendre comment la machine fonctionne. Après, un jour, on te dit, bon, maintenant tu peux l'utiliser. Il y a des choses aujourd'hui qu'on peut pas utiliser. Le cochon, si on dit qu'on peut pas l'accéder, ça veut dire que c'est une machine qu'on peut pas utiliser. On peut comprendre la machine, mais pas l'utiliser. Quand ma chère viendra, on pourra l'utiliser.
C'est-à-dire quoi? Quand ma chère viendra, on va manger du cochon?
Bien sûr. Vous viendrez chez moi, je vous inviterai. Ouais, saumon crème fraîche. Lardon crème fraîche. Bien sûr.
Avec le beurre.
Chez moi à la maison.
Il y a mieux. On prend un élevage.
Oui, mais le chasier, oui, pas le chameau. On pourrait aller au McDo.
Le McDo sera cachère.
Ouais.
Alors on y va.
Non.
Mais ça, regardez. Ça, cette notion, qu'est-ce qui va se passer quand ma chère viendra? Parce qu'en vérité, je comprends. Le fond de la question, 2 secondes, je vais répondre à la question. Le fond de la question que plusieurs ont ici, c'est qu'est-ce qui va se passer, monsieur Berger, répond à votre question. Qu'est-ce qui va se passer quand ma chère viendra? Puisqu'a priori, il n'y aura plus d'étincelles à aller chercher, alors est-ce que ça veut dire que tout sera permis? Ça, c'est le cours de la semaine prochaine. Il a parlé de triatamétime, la résurrection des morts, de plusieurs étapes qu'il y aura dans la résurrection des morts. D'accord? Ça, c'est la semaine prochaine.
Si tout cela sera permis au moment de ma fière.
Oui. Doucement. Tout cela, c'est quoi tout cela?
Voilà, les corbanotes.
Oui.
Est-ce qu'on peut faire un corban
sur un
cochon?
Oui, bien sûr.
Mais non, c'est pas prévu dans la Torah.
Alors, c'est pas prévu dans la Torah, non, seconde.
Il y aura une nouvelle Torah.
Il y a la Torah, il y a des
choses. Oui, il y aura une nouvelle Torah.
Chas v'shalom. Chas v'shalom, ça.
Mais c'est marqué.
Chas v'shalom, c'est chrétien, ça. Au contraire.
Mais c'est marqué dans les prophètes.
Rambam dit clairement, il ne faut pas comprendre comme ça. Chas v'shalom, parlez comme ça. Rambam il explique qu'on aura une telle compréhension de la Torah que la Torah nous paraîtra nouvelle. Sinon c'est chrétien, Nouveau Testament.
Pas la même chose.
C'est quoi ce qu'ils disent les chrétiens? Ils marchent même Nouveau Testament. Ça veut dire ils disent voilà c'est la nouvelle Torah.
Non, parce qu'ils ont aboli.
C'est ça?
Leur Paul, bon, il l'a enlevé. Il a dit rien que la Kavana.
Bon, on va rester sur notre Torah maintenant. Alors regardez Rabotai. Qui a lié des ailes? Alors Oshelo Itam Uvenetetet Betama. Donc Shatam Usod Asfira Chochma Ilaa Shenaflu Mimena Nitzotzin Biklupot Bishvirat Akilim. Il dit c'est très simple. Il dit quand tu étudies une halakha, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs couches. Il y a d'abord la halakha, connaître la halakha. Après, il y a la raison de la halakha. Il dit ce qui arrive très souvent, c'est que la halakha, ça c'est surtout dans notre génération. La halakha, on la connaît, mais on ne comprend pas la raison de la halakha. D'accord? C'est pas le sod, la raison de la halakha. Et ce qu'il dit ici, c'est quoi? Il dit en vérité que quand malheureusement le monde a été créé, il y a eu une masse d'étincelles divines qui a été prise en captivité par les forces du mal. Dans cette masse, d'accord? Excusez-moi si ça paraît un peu abstrait ce que je dis. Dans cette masse d'énergie qui a été perdue, il y avait aussi une masse de Torah qui a été perdue. Il y a eu une masse de halakhot qui a été perdue, il y a eu une masse de raisons de halakhot qui ont été perdues. Et donc au fil des générations, on est en train d'essayer de récupérer cette énergie. Donc soit on récupère une halakha, ça veut dire on se pose une question sur une halakha et on va essayer de chercher pour trouver la réponse, ou soit ce qui arrive le plus souvent aujourd'hui, la halakha on la connaît déjà parce qu'elle est écrite, mais on essaie de comprendre la halakha. On va se casser les pieds pour comprendre la halakha. Ça veut dire quoi? On est en train de chercher une réponse qui a déjà existé, une étincelle, une énergie qui a déjà existé, qui malheureusement a été perdue et a été prise en captivité. Et on est en train d'essayer de la récupérer. Ça veut dire exactement le même phénomène qui se passe quand je fais une bracha. Je récupère une étincelle divine qu'il y a dans ce verre de café. C'est exactement le même phénomène qui se passe quand je me casse la tête pour essayer de comprendre le verre Torah. Je suis en train d'essayer de chercher une étincelle qui est perdue à ce moment-là. C'est exactement le même phénomène. Je suis en train de générer quelque chose de nouveau. Vous me suivez? Ça veut dire que étudier la Torah, je suis pas simplement en train de comprendre quelque chose. Je suis en train de générer une nouvelle réalité dans le monde. De la même manière que quand je fais une mitzvah, je génère une nouvelle réalité dans le monde. Quand j'ai fait une bracha sur ce verre de café, j'ai libéré une étincelle divine qu'il y avait dans ce verre de café. De la même manière, quand je suis en train de me casser la tête pour essayer de comprendre un Dvar Torah, je suis en train de générer une nouvelle réalité dans le monde qui a une étincelle de Kedusha, une étincelle de Torah. Il y a une information qui vient d'être révélée pour toute l'humanité. D'accord? Et ça, il faut y croire. C'est ma vache comme ça. D'accord? Tant que ma chère n'est pas là, c'est qu'on est en plein dedans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on se casse la tête pour comprendre un Dvar Torah, on est en train à chaque fois de chercher des étincelles. Chacun, à son niveau, il découvre des choses que personne n'a jamais découvert. C'est extraordinaire.
Alors, quand ma chère sera là, si tu veux, on ne sera plus amené à faire le même type d'études.
J'ai dit que ma chère en parlera la semaine prochaine. C'est une autre question parce que dans ma chère il y a plusieurs états, plusieurs générations. C'est ma mère la semaine prochaine. Non mais mettre la semaine prochaine. On va parler de Triat Améti. Bien sûr que la semaine prochaine. La veille de Shavuot. Hein. Oui.
On prépare le kiddush.
C'est lui qui offre que l'on se base sur ce qui a été découvert par le passé.
On est obligé de se baser sur ce qui est dans le passé. Parce que il y a plusieurs écorces, d'accord. Et donc les générations d'avant ont enlevé à chacune une écorce, une écorce, une écorce. Et plus on enlève des écorces, et plus on s'approche du noyau. Et plus c'est lumineux. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a une perception qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était impossible d'avoir. Parce qu'aujourd'hui on a enlevé tellement d'écorces qu'on arrive au noyau. C'est l'endroit qui est le plus lumineux. On a une masse d'informations aujourd'hui extraordinaire.
En même temps, on y est toujours loin.
Ras Vechalom, prenez loin. On est très très proche. Là, disons, de quoi.
Puisque la compréhension, elle est infinie. Puisqu'il y a une infinité d'écorces. Donc au final, quand tu penses que tu es arrivé à la fin, tu es loin de la fin.
On n'arrivera jamais à la fin.
C'est ça.
D'accord.
On est loin du loyau.
Mais chaque écorce que tu enlèves, c'est un blocage qui est enlevé.
Un peu plus de lumière.
Voilà. Il y a une question.
Ça veut dire qu'on est tous liés.
Bien sûr. C'est pas simplement qu'on travaille tous pour la même cause.
Oui, mais c'est-à-dire que moi,
on est plusieurs à travailler sur le même chantier. C'est comme dans un chantier. Dans un chantier, quand il est fait de manière professionnelle, t'as en même temps un plombier, d'accord. T'as une équipe. Chacun il fait sa chose, d'accord. Chacun il fait son boulot. Mais chacun il fait son boulot et en vérité, chacun à son niveau, il développe quelque chose. Et après, à la fin, d'accord, t'as un maître d'œuvre et lui, à la fin, au bout de quelques mois, chacun il a cru que moi, je travaillais que sur l'électricité, moi, je travaillais que sur la plomberie. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout de quelques mois, si ça se passe bien, en général, ça prend plusieurs années.
Si tu nous mets dedans.
D'accord. Au bout de quelques mois, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on découvre que c'est terminé. Parce que chacun a enlevé quelque chose. Même bien que moi, que je croyais, je travaillais que sur une chose. C'est exactement la même chose dans la Torah. On y est?
Petite question.
Oui.
Le fait de retrouver toutes ces étincelles qui sont perdues, est-ce que c'est les étincelles qui ont été perdues suite à la faute de Dava qu'on doit récupérer
sous
forme de tikkun?
Non, c'est les étincelles qui ont été perdues à la création du monde. Je suis Virata Kelim. C'était voulu par Akadosh Baruch Hu. Il y a une volonté de la part d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la Torah existait avant la création du monde. Dieu a créé le monde pour deux choses, pour Israël et pour la Torah. Donc il y a une volonté de la part d'Akadosh Baruch Hu de cacher des étincelles divines un petit peu partout dans le monde. On avait expliqué une fois du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit comment ça fait qu'il y a des pays aujourd'hui dans lesquels il n'y a plus de juifs qui habitent. Vous savez, il y a eu des pays dans lesquels il y a eu des juifs qui ont habité, maintenant il n'y a plus de juifs qui habitent. Il dit parce que on a récupéré toutes les étincelles divines qu'il y avait là-bas.
Il y a beaucoup d'étincelles alors.
C'est
donc vraiment.
Protocole des sœurs.
Bon.
La brisure.
Donc.
La tuyauterie et la passion.
Chataram. Alors un bouteille. On y va.
Il y a beaucoup de tomates.
En Israël, il y en a des plus.
Mais il y a quoi? La meilleure ville de celle.
Alors, je suis deux lignes avant la fin de la page 288. Hein? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions ou c'est clair jusqu'ici? Tout est clair? Tout est clair? Tout est clair? Alors, monsieur Ben David, tout est clair? D'accord, on y va. Alors, on y va, on avance. Donc, il dit comme ça, vous allez voir, c'est extraordinaire ce qu'on dit aujourd'hui. Maman, quand on lit ça, on est heureux quand on étudie la Torah. Il dit comme ça, il continue. Il dit, Vezeu Shekatouf, je suis deux lignes avant la fin de la page. Vezeu Shekatouf Beraya Memana. Avec ça, on va comprendre ce qui est écrit dans Raya Memana. Raya Memana, c'est une partie du Zohar, dans Parashat Nassau, qui dit là-bas, Sheakushia imisitra dera. Maintenant, on va comprendre ce que le Zohar avait dit. Vous vous rappelez, le premier cours qu'on a fait sur la lettre 26, on a dit que le Zohar dit que les questions qu'il y a dans la Gemara viennent du mal. Et ça nous avait choqué quand on avait dit, mais comment tu peux dire qu'une question qu'il y a dans la Torah vient du mal? Ça nous avait choqué, comment tu peux parler quelque chose comme ça? D'accord? Maintenant, on comprend. Qu'en vérité, quand on te dit qu'une question vient du mal, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses dans la Torah qui sont mauvaises. Ça veut dire que le fait même qu'il y a une question, le fait même qu'il y a un blocage, ça veut dire qu'il y a une écorce, donc c'est du mal. Seulement, c'est voulu par Akadosh Baruch Hu. C'est pas un mal qui est inaccessible, c'est un mal qui est accessible. La preuve, tu vas te casser la tête, tu vas trouver la réponse.
Est-ce qu'on peut appeler ça une difficulté?
Bien sûr, c'est une difficulté. Il faut se fatiguer dans la Torah. On peut passer des heures et des heures et ça demande beaucoup d'énergie. Et tu cherches un trésor. Ça demande énormément d'énergie.
De là l'expression.
Bien sûr. Je peux vous dire que des fois, même sur des pages de Tania ou des pages, enfin surtout sur la Gemara, des fois on passe des heures et des heures et j'essaie de comprendre ce que la Gemara a dit. Et on trouve des trésors. On trouve des trésors. Vous savez, le rabbi, il demandait beaucoup aux élèves de la yeshiva d'écrire ce qu'ils trouvaient.
Oui, pour qu'on oublie.
D'accord? Et à la yeshiva, on faisait des fascicules de recueil. J'ai gardé encore à la maison. Et chaque fois qu'on trouvait des choses, on publiait comme, vous savez, comme ce qu'il y a dans les grandes écoles de médecine, ils publient des, comment on appelle ça? C'est des articles, d'accord? Et les élèves, ils publient des articles. D'accord? Et dans les yeshivotes. Pas que dans les yeshivotes rabat, ouais. Et les élèves, ils écrivent. Et tu vois, on découvre des chidouchim, mais il y a des choses qui sont pas écrites dans les livres. Il y a des questions que personne n'a pensées.
Ce genre d'écrit a été compulsé quelque part.
Oui, bien sûr, ouais. Ça sort en général 4-5 fois par an dans les chiffres.
Voilà.
J'ai pas compris.
Oui. Et ça va compris. La réponse est très simple. C'est qu'en vérité, quand on dit qu'une question, la question vient du mal, ça veut pas dire Hasbe Shalom qu'il y a du mal dans la Torah. Ça veut dire que le fait même qu'il y a une question, le fait même qu'il y a un blocage, ça veut dire qu'il y a une étincelle qui est prise en captivité. Donc par rapport à ça, ça s'apparente à du mal.
Il avait dit que c'était la question qui était mal.
Oui. Il avait dit que la couche, elle vient du mal. On a dit que la question, elle vient du citradera, du côté du mal.
Dans une mitzvah aussi, alors, on peut dire ça.
Dans une quoi?
Dans une mitzvah.
Oui, c'est sûr. Même chose. Même chose. Même chose, exactement même chose. Ok?
C'est pas comme ça que j'avais compris dans la question de l'agma. Il disait, puisque dans l'agma, il va se commencer à se dire, bah ouais, moi j'arrive à comprendre et tout. Donc c'est d'étudier qu'il risque d'arriver à se comporter mal. Mais pas la couchère. Moi, c'est pas comme ça que j'avais compris au début.
C'est ça le pshat, c'est la couchée qui est mauvaise. C'était les mots, tu pourrais lire, c'était les mots qui étaient écrits.
Ah non, mais
alors on y va, on continue. Il dit maintenant. Il dit, donc on continue dans les mots, il dit Vézé ou alors dans les mots. Donc, Vézé ou Shekatouf Beraya Memana, Shakusha et Misitra Dera. Avec ça, on va comprendre ce qui est écrit dans Raya Memana. Donc dans la partie du Zohar, qu'une question, ça vient du mal. Pas Kras Bechalom, la question, c'est du mal. Que le fait même qu'il y a une question, ça veut dire qu'on est en train d'essayer de reprendre en captivité, de reprendre une étincelle qui était prise en captivité. Vehine. Maintenant, écoutez bien ce qu'on va dire ici. Aelionim, ceux qui sont en haut. Qui est en haut? Les Neshamot, les Malachim, tout ce qui est en haut, tout ce qui n'est pas ici-bas sur Terre. En baem koach le barer ou les haalot. Ils n'ont pas cette force d'aller chercher les choses qui sont pas comprises. Ça veut dire que quand on est dans la yeshiva d'en haut, parce qu'en haut il y a une yeshiva, metivta d'irakia, on en parle plusieurs fois dans la Gemara, etc. Il y a une yeshiva en haut, dans le ciel. Et quand dans la yeshiva du ciel, on se pose des questions, on dit, tiens, on n'a pas compris ça. D'accord? Eh ben, en haut, quand on n'a pas compris, on reste, on n'a pas compris. Il reste à l'affût, peut-être en bas, il y a quelqu'un qui va se poser la même question.
Dans le temps, là-haut.
D'accord? Tu t'imagines l'emprisonnement que c'est? Que tu es là, d'accord? T'as une question et tu peux pas trouver la réponse. T'as pas le cerveau qui veut pour trouver la réponse.
Parce qu'en haut, il n'y a pas le mal.
Nadi, alors, je comprends pas.
Ouais, allez-y.
Si les yeshiva de là-haut, ils comprennent pas comme nous, quand nous, on découvre aussi. Mais alors, tous les haramim qu'on dit toujours, ils sont assis.
Non, attendez.
À la table de Dieu.
Il faut rester à la base, attendez, écoutez bien. Quand le monde a été créé, on est question d'expliquer. Quand le monde a été créé, il y a eu une masse d'informations, il y a eu une masse d'étincelles divines, donc une masse de Torah, qui a été prise en captivité par les forces du mal. Ça, on l'a dit. D'accord? Maintenant, ça, il n'y a personne qui peut le récupérer. Les malachim ne peuvent pas le récupérer. Les neshamot ne peuvent pas récupérer. Ils peuvent pas être en contact avec le mal. Ils ne peuvent pas être en contact avec la question, avec un problème. En haut, on ne sait pas ce que c'est le mot problème. Donc, puisqu'on ne sait pas ce que c'est le mot problème, donc, dès qu'on te monte une écorce, ils sont bloqués devant l'écorce. Peu importe l'écorce. Nous, les hommes, qui sommes ici-bas, on a cette force que certaines écorces, on peut creuser. On peut enlever. C'est pour ça qu'il te dit ici que les malachim en haut, ils sont à l'affût, ils attendent, il y a des fois des questions qui se posent et ils attendent qu'on se pose la question en bas. Et quand en bas on a enlevé les corps, ils disent, ah, maintenant on a une nouvelle information. Et c'est ce qu'ils font en bas.
La version originale est là, il n'y a pas de version originale là-haut.
Exactement. Ce que le Zohar dit quelque chose de très puissant. Il dit qu'en haut, en vérité, qu'est-ce qu'ils font les Neshamot et les Malachim? On connaît tout en haut. C'est quoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à l'attente de toutes les études de Torah qui se passent en bas. Et tous les Chidushim qui se passent en bas, dans chaque cours, dans chaque personne qui a étudié la Torah, il y a eu des choses nouvelles qui ont été découvertes, il y a eu des trésors qui ont été découverts. Et ben, chacun de ces trésors, ils montent en haut, et en haut, ils disent, ah, tiens, là-bas, ils ont découvert ça. Ah, rue Fernand Vidal, ils ont découvert ça ce soir. Plac, ils en font des plats.
Parce que pour ceux d'en haut,
on va oublier.
Il n'y a pas besoin. En haut, t'inquiète pas, ils recevront en live en haut. Mais ils ne veulent pas le trouver eux-mêmes. Ils peuvent seulement récupérer.
C'est que théorique, là-haut. C'est que théorique. Nous, on la vit.
Justement.
Eux, non, rien. Que dalle. Ils ont rien.
Il n'y en a pas,
rien.
Les
sadikins qui sont montés là-haut.
Ils ne changent pas. Ils ne changent pas.
Vivre la Torah.
Ils n'ont plus cette habilité en haut. Ils n'ont plus cette habilité à accéder à quelque chose qui est caché.
On dit qu'ils étudient à la table.
C'est ça ce que Moshe disait. Quand ils ont voulu le tuer.
C'est un Kadosh Baruch qui a créé comme ça le monde.
Et Dieu, il leur a dit.
C'est un Kadosh Baruch qui a créé le monde comme ça. Pourquoi vous avez la Torah était prise en captivité.
Vous avez un enfant, vous allez chercher. Yolaben, vous avez une Brit Mila, vous avez Omar Lachim.
Alors, attendez les mots.
Ils vivent pas la
dis
Torah.
Dis les filles, Shehem, Elubashim. Donc, Veiné, je reprends Veiné. Donc, Veiné, c'est, on est dernière ligne. Veiné, à Elionim, ceux qui sont en haut, ça veut dire les Neshamot, les Malachim, etc. En, Baem, Koach, les Varer ou les Aalot. Ils n'ont pas la force, les Varer ou les Aalot, mais à Shvira, Shebiklipat Noga. Les Neshamot et les Malachim qui sont en haut n'ont pas la force, ils n'ont pas la capacité d'aller faire ce travail de birour. C'est quoi birour? Ça veut dire de trier, de chercher une étincelle de bien qui est prise en captivité, qui est cachée. Ils peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas cette capacité. Le mot problème, c'est un mot qui est inconnu en haut. Nous, en bas, problème, c'est ce qui gère notre vie. On gère des problèmes. Il y a un problème, je solutionne des problèmes. En haut, on ne connaît pas le mot problème. Donc, puisqu'on ne connaît pas le mot problème, dès qu'on arrive devant une impasse, eh ben, on reste devant l'impasse. On attend qu'en bas, il y ait quelqu'un qui va la débloquer. Les Ela Tartonim Bilvad. Les seules personnes qui peuvent le faire, c'est nous, les hommes, ici-bas. Pourquoi? Les filles, Shehem, Meloubashim, Begouf, Rumri, Mishrad, Rivia, Miklipat, Noga. Parce que nous, les hommes, nous sommes ici-bas sur Terre. Et ici-bas sur Terre, nos neshamot, d'accord, elles sont conçues pour chercher des problèmes, pour trouver des solutions à des problèmes. On est conçus pour ça. Ça veut dire que ici-bas, on est capable de faire des choses que personne ne peut faire en haut. Et les malachim sont à l'affût des chidushim qu'on va avoir ici-bas. Vehem matishim kora bishvirat atavot veit kafi asitra achara veit pardu kol po alaven. Alors maintenant, il dit comme ça. Il dit concrètement. Comment on arrive à faire ça? Ça veut dire, comment on arrive à trouver des chidushim dans la Torah? Les gens, ils pensent qu'on trouve des chidushim dans la Torah hein, seulement en se cassant la tête. Alors ça, c'est un autre chidushim qu'on nous apprend ce soir. C'est qu'en vérité, on trouve pas des chidushim seulement en se cassant la tête. On trouve des chidushim en faisant des efforts. J'explique ce que ça veut dire. Il dit, par exemple, une personne qui est noyée dans le matériel. Il est noyé dans la vie matérielle, dans les plaisirs matériels. Après, il prend une page de Torah, il essaye de comprendre, et il voit que c'est bloqué, il comprend pas. On lui dit, bien sûr que tu comprends pas, tu t'es plongé dans le matériel, comment tu veux comprendre? Ça veut dire que quand on parle d'un effort, c'est pas seulement un effort mental. C'est pas seulement chercher un problème mental. C'est pas seulement une équation à solutionner. C'est pas seulement un problème mathématique à régler. Il y a aussi un problème moral. Il y a aussi un problème moral que des fois, la neshama n'arrive pas à trouver la réponse. La neshama n'arrive pas à trouver la sensibilité qu'il faut pour trouver la réponse parce que la neshama est trop de matériel. Elle est trop noyée dans le matériel. Donc c'est ce qu'il dit ici. Il dit en haut, ils connaissent pas ça. Ils savent pas ce que ça veut dire l'effort de quitter un petit peu le matériel. Regardez ce soir par exemple, on aurait pu rester chez nous à la maison dans le monde matériel. On avait décidé de venir à un cours de Torah. Il y a pas de match ce soir. Alors bon, on a décidé de venir à un cours de Torah. On est d'accord. On a décidé de venir à un cours de Torah. On ne sait pas si on va comprendre 20% et on a quand même venu. Quand on est.
Ton cours, tu devrais l'envoyer à Hollande.
On a décidé de venir à un cours de Torah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis ici? Tu dis, il y a deux choses que tu viens de faire. Tu viens de faire d'une pierre deux coups. Premièrement, tu t'es cassé la tête déjà pour trouver, pour comprendre ce que ça veut dire. Donc avec ça, le fait même de chercher à comprendre ce que ça veut dire, chaque fois tu récupères des étincelles. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, il y a une deuxième chose. Le fait même que tu as fait un effort de sacrifier du matériel pour aller vers le spirituel, quelque part, tu t'es combattu contre un problème aussi. C'est quoi le problème? Le problème, c'est le problème de la matérialité, le problème de la course vers le matériel. Ce qu'il te dit ici, il te dit, quand on te dit que tu dois chercher, solutionner un problème, c'est pas simplement mental, c'est aussi moral, c'est aussi spirituel. Et donc il dit, c'est ça les efforts que les hommes font en bas. En haut, comme a dit M. Bissou tout à l'heure, en haut, les malachim ne savent pas ce que c'est ça. Ils ne savent pas ce que c'est se battre contre un yetzerara. Ils savent pas ce que c'est faire un effort pour faire une mitzvah. Ils savent pas ce que c'est se casser la tête pour comprendre quelque chose. Il n'y a pas. C'est soit tu l'as compris, soit tu l'as pas compris. En haut, c'est comme ça. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est comme un compte en banque. Soit tu l'as dans le compte, soit tu l'as pas dans le compte. Nous, en bas, on sait ce que c'est un problème. On sait ce que c'est se casser la tête. On sait ce que c'est faire un effort physique pour faire quelque chose alors que le Yetzahara, il nous embête et il nous laisse pas le faire. Ça, c'est quelque chose qu'il y a quand en bas qu'on peut faire. C'est pour ça qu'il dit ici, ça, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la force à Matan Torah, comment on appelle le don? Pourquoi on parle du don de la Torah? C'est quoi? Ça veut dire quoi le don de la Torah? le don, il nous a donné. Ça veut dire quoi, il nous a donné? Ça veut dire qu'avant, d'accord, le centre nerveux de la Torah était en haut. C'est là-bas que ça se passait. Quand Akadosh Baruch Hu a décidé de nous donner la Torah, ça veut dire que maintenant, c'est ici que ça se passe. Si on veut régler un problème, si on veut comprendre, si on veut trancher une halakha, c'est ici que ça se passe. Et même Dieu en personne, comme c'est écrit dans la Gemara Gittin, dans plusieurs Gemara, oui. Même Dieu en personne n'a pas le droit de trancher. Et plusieurs fois dans la Gemara, on raconte qu'il y a des fois des cas dans lesquels, en haut, ils suivaient un problème, une marloquette qui se passait en bas entre plusieurs Talmidei Chachamim, et qu'il y a eu un cas dans lequel la Gemara raconte. Il y a eu un cas dans lequel Dieu a tranché. Dans la yeshiva du Seigneur, il ne sait pas quoi faire. Alors nous, on va demander à Dieu. Et Dieu a dit comme ça. Dieu a dit c'est cachère. C'est pas cachère. Et non, Dieu avait dit c'est cachère. Et dans la yeshiva d'en bas, ils ont dit, d'accord, ils ont tranché. Ils ont suivi la majorité. La majorité a dit c'est pas cachère. D'accord. Et Dieu a dit mes enfants m'ont gagné. C'est-à-dire que même Dieu il joue le jeu. D'accord. On l'avait dit dans le cours d'Agmara ça. L'obashamayim. On l'avait fait un cours sur ça. Donc, velachen c'est pour ça. Baim ha'elyonim lishmoa chidushe Torah me'atartonim. C'est pour ça que les Elionim, ceux qui sont en haut, les Neshamot, les Malachim, ils viennent écouter les Chidushé Torah qui se passent en bas. Vous imaginez? Oui. On est en train d'étudier la Torah maintenant, il y a des Malachim qui sont là. Oui. D'accord? Ils sont pas là pour nous regarder. Ils sont là pour voir s'il n'y a pas des nouvelles choses qu'on a découvert aujourd'hui que eux ils ne connaissaient pas encore. Ils sont à l'affût. D'accord? Ils sont à l'affût de nouvelles informations. Or, comme dit la Gemara dans le traité Chagiga que En Bet Amidrash Blo Chidush, c'est impossible qu'il y ait une étude sans Chidush. C'est impossible. Si vous ouvrez un texte, même si vous étudiez le même texte 10 fois par jour toute votre vie, chaque fois que vous l'ouvrirez, vous trouverez quelque chose de nouveau. Donc ça veut dire que chaque fois que vous êtes en train d'étudier, il y a un malhar qui est en train de vous zapper, de vous regarder pour voir quel chidouche il va découvrir aujourd'hui.
Quel est l'intérêt des anges de Yeshiva Shel?
C'est un tarnouk, c'est un plaisir.
Non. Quel est leur intérêt alors que... Il n'y a rien pour eux.
C'est quoi, il n'y a rien pour eux?
Il n'y a rien, tout ce qu'on...
Non, mais leur intérêt, c'est la compréhension. Alors, voilà. C'est la compréhension.
Non, mais il n'y a rien pour eux.
Mais sûr qu'il y a.
Même c'est... ton père et ta mère, ils n'ont pas.
J'ai compris, mais
c'est... Ton père, ils n'aiment pas. Ne mange pas ça, ne fais ça.
C'est la compréhension.
Pas. Voilà, ça sert à quoi de l'étudier?
Oui, mais nous, attendez, doucement. Nous, on étudie la Torah, telle que la Torah a été habillée, entre guillemets, dans des outils matériels. C'est-à-dire que maintenant, on parle du père, de la mère, des animaux, etc. Mais c'est des concepts. D'accord? Ces concepts-là, ils peuvent exister spirituellement. Vous suivez? Je vous donne un exemple. J'explique, c'est très simple. Par exemple, on a étudié la Gemara Kiddushin. D'accord? Dans la Gemara Kiddushin, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Bishloshat Rachim Aisha Niknet. On dit qu'une femme peut être réservée entre guillemets, c'est le Kiddushin, par trois méthodes. Mais Kesef, Bishtar ou Bevia? Par l'argent, par le contrat et par la relation. Alors une fois, l'Admor HaZaken, il a expliqué comme ça. Il a dit, je vais vous expliquer comment on étudie cette Mishnah dans la Yeshiva du ciel. D'accord? Parce que nous, quand on parle d'une femme, on parle d'une femme. Une femme et un homme qui se marient. D'accord? Hein, c'est une femme et un homme qui se marient. Et on veut savoir comment ils se marient. C'est concret. Alors, comment ils étudient ça en haut? Donc, il n'y a pas de femme en haut. D'accord? Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Alors, comment ils étudient ça en haut? Il a dit, c'est très simple. Il a dit,
c'est simple.
Oui, ceux qui pensent qu'ils attendent. Alors écoutez, bon d'accord. Écoutez bien, c'est très simple. La Nora Zaka, elle a dit comment elle étudie cette Mishnah dans le ciel. Il a dit comme ça. Il a dit c'est qui la femme? La femme c'est Israël. C'est qui l'homme? L'homme c'est Kadosh Baruch Hu. Et dans le ciel, ils étudient cette Mishnah comme ça. Bishlosh Adrachim Aishan Niknet. La question que se pose des Malachim, c'est comment un Juif, comment une Neshama peut s'attacher à Dieu? Comment une femme, la femme c'est Israël, comment la femme peut s'attacher à Dieu? Et les trois méthodes qu'ils ont trouvées, c'est Kesef, Shtar et Bia. Kesef, l'argent. Shtar, le contrat. Bia, les relations. Là, c'est très simple. Je vais expliquer comment on explique en haut. Kesef, en hébreu, c'est l'argent. Mais Kesef, pourquoi on appelle Kesef l'argent? Parce que Kesef, ça vient de la racine Nirsof. C'est quelque chose que les gens sont attirés par ça. Donc, on dit, la question qu'on se pose, comment la Neshama peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu? Trois réponses dans le ciel. Réponse numéro un, par Kesef, par l'amour. Comme l'argent, par Kesef, ça veut dire par le fait que la Neshama est amoureuse, entre guillemets, de Dieu, elle cherche à s'attacher à Dieu. Numéro 1. Numéro 2, Shtar, par le contrat. C'est quoi notre contrat, les Juifs? C'est la Torah. Et numéro 3, c'est quoi? Bia, par la relation. C'est quoi la relation? C'est quand on fait les choses ensemble. C'est quand un Juif fait une mitzvah, ben c'est comme ça que ça s'attache à Dieu. Voilà comment ils étudient la même Mishnah que nous dans le ciel. Bon, je l'ai fait rapide, là. Hein, pour vous montrer comment chaque chose qu'on étudie en bas, il y a une manière comment s'expliquer en haut.
C'est sûr.
Shabbat, j'ai pas compris. Shirachiri, bien sûr. Donc, je reprends. Velachen, c'est pour ça, Baim Elyonim, Lishmo Achidouche Torah Matartonim. C'est pour ça que ceux qui sont en haut, les Neshamot, les Malachim, ils viennent pour écouter les Chidouche Torah d'en bas. Mash Mechatchim ou Megalim Talumot Rochma, ils viennent écouter. Les chidushim qu'on va avoir, c'est quoi les chidushim? C'est qu'on va découvrir des trésors de sagesse, shayuk vushim bagola ad ata, qui étaient noyés en exil, entre guillemets, jusqu'à maintenant, que personne n'a jamais trouvé jusqu'à maintenant. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit ici. Vechol ish Israël. Chaque personne du peuple juif, sans exception. Chaque personne. C'est pas pour les rabbins, c'est pas pour les talmidei chachamim, c'est pas pour les tzadikim, c'est pas pour les rabbanim, c'est pour tout le monde. Kol ish Israël. Chaque personne du peuple juif. Yuchal legalot ta'alumot chochma. Il a la capacité, il a tous les outils qu'il faut, d'accord, pour dévoiler des trésors de sagesse qu'il n'y a que lui qui peut dévoiler. Legalot ou les chadash, sechel chadash. Chacun de nous a la capacité de découvrir des nouvelles logiques que personne n'a jamais pensé. Sechel chadash. C'est pas comprendre quelque chose, c'est découvrir des choses, des manières de réfléchir, des angles de vue que personne n'a jamais vu comme ça. En ba'alachot, que ce soit dans l'alacha. En ba'agadot, que ce soit dans l'aspect midrashique de la Torah. En b'nigle, que ce soit dans l'aspect dévoilé de la Torah, c'est-à-dire plus l'alacha, la gemara. En b'nistar, et que ce soit dans l'aspect caché de la Torah. Kefi, prinat, shoresh tishmato. Chacun y arrivera selon la source de son neshama. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus de facilité à s'exprimer dans la partie dévoilée de la Torah. Il y a des gens qui ont plus de facilité à s'exprimer dans la partie cachée de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a des gens, dès qu'ils sont dans la halakha, ils sont dans leur élément. T'as des gens, dès qu'ils étudient la Gemara, ils sont dans leur élément. T'as des gens, dès qu'ils étudient le Zohar, ils sont dans leur élément. T'as des gens, dès qu'ils étudient la Chassidut, ils sont dans leur élément. Ça, c'est par rapport à la source de la neshama de chacun. Ben, il faut savoir que chacun de nous a la capacité de découvrir des chidushim, et pas seulement ça, écoutez bien. Ou mechouyav badabar. Non seulement qu'on peut découvrir des chidushim, mais nous avons l'obligation. Ça veut dire que quand on va monter en haut, Dieu va nous poser des questions. Il va dire, t'avais un quota de chidushim que tu devais trouver. Et tu pouvais les trouver. Pourquoi t'es pas parti les chercher?
Comment on peut savoir le
d'accord?
Bah, il y avait un match de foot. Malheureusement, tout ce qu'on pourra
quoi,
dire.
Comment on peut savoir? Ouais, étudiez, il suffit d'étudier. Ne vous inquiétez pas, Dieu, il s'arrangera pour vous aiguiller vers ce qui correspond à votre neshama. Ou mechouyav bedavar. D'accord? C'est-à-dire, c'est pas, là on a changé de cap, là. C'est pas seulement qu'on peut le faire, c'est qu'on doit le faire. Chacun de nous, il doit chercher, d'accord? Quand il étudie la Torah, il doit se poser la question, il doit se dire, qu'est-ce que j'ai compris dans ce texte? Comment ce texte me parle? Qu'est-ce que moi j'ai compris de ce texte?
Si je suis un brel, je comprends que dalle.
C'est impossible.
Moi, j'ai déjà déchiré une cinquantaine de secrets.
C'est impossible. Même un brel, alors moi je vais te dire quelque chose.
Travaille,
quand? Je vais te dire quelque chose. D'accord? Des fois, les gens qui sont très simples d'esprit, c'est un peu comme les enfants. Des fois, les gens qui sont très simples d'esprit, c'est eux qui trouvent les meilleures questions. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils matérialisent la chose. Dès que tu leur expliques un concept, tout de suite, ils le matérialisent. C'est-à-dire, pour eux, ils s'imaginent matériel devant eux. Et donc, du coup, ils voient des choses que toi, tu vois pas. Nous, on reste abstrait dans le cerveau, donc il y a des choses qu'on fait pas attention. Mais quand tu matérialises la chose, tout de suite, tu dis, bah, qu'il y a un problème.
Chacun de nous. Il y a quelqu'un qui est certain d'avoir compris, finalement, il a compris que dalle.
Ça veut dire quoi?
Bah, il pense avoir compris parce qu'il est très imbu de lui-même, donc il est certain d'avoir.
Il a rien compris, c'est dommage.
Mais ça veut pas dire que.
On a étudié un Pirkei Avot. Et Zehu Chacham, Alomed du Kol Adam. C'est qui celui qui est intelligent? C'est pas celui qui connaît beaucoup de choses. C'est celui qui sait apprendre de tout le monde. Ouais. Être intelligent, c'est pas connaître, c'est savoir apprendre de tout le monde. D'accord. Vous avez chaud là ou pas?
Non.
D'accord.
C'est l'émotion. C'est un peu d'eau.
Alors, je vous explique. Ils ont allumé le chauffage en haut. Ils ont allumé le chauffage et moi j'ai allumé la clim. Il y a le combat entre le chauffage et la clim maintenant.
Non, c'est ça. Ce qui vient d'en haut et ce qui vient d'en bas.
Ouais, voilà.
Il paraît que c'est ce qui vient d'en bas qui gagne.
Mais comment ça se fait que c'est possible? Ça doit être fermé logiquement.
J'ai pour rien moi.
Il a dit le rabat central.
Oui, mais si c'est central justement, c'est le gardien, il doit fermer, c'est fini la date des
pas. Alors, mach et mechatchim ou mech. Alors, donc dans les mots, pardon.
Rabou, Marcel, Rabou.
Ou mechouyav bedavar, leashlim nishmato, pour compléter, pour parfaire sa neshama. Be'alaat kol anitoto shenafu lechelkel le gorala. Alors là maintenant, il dit pourquoi j'ai l'obligation. Si une personne arrive en haut et qu'il n'a pas cherché des chidushim, il dit écoutez, qu'est-ce que vous voulez? J'étais un bon juif, j'ai fait les mitzvot, je suis venu tous les matins, après-midi et soir à la prière, j'ai fait mes mitzvot. Bon, je venais au cours de Torah, je me suis pas cassé les pieds pour chercher de nouveaux chidushim. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai tué personne. En quoi c'est un problème? Écoutez bien ce qu'il dit ici. Il dit parce que chaque personne, Dieu a donné à chaque neshama la création du monde, d'accord? Quand il a distribué ses étincelles dans le monde, à chaque neshama, il lui dit, toi, tu iras récupérer celle-là, cette étincelle. Il a donné à chacun exactement ce qu'il doit rechercher. Et Dieu, il s'arrange dans notre étude, et dans notre parcours, que l'étincelle arrive sur notre parcours. Vous savez, des fois, tu sais pas pourquoi tu te mets à étudier un truc, tu sais pas pourquoi tu te mets à étudier un truc, tu sais pas pourquoi. Parce qu'en vérité, ta Neshama, elle est en train de chercher, dans ce texte-là, une étincelle qui nous correspond. Et elle doit le chercher. Donc c'est pour ça que c'est une obligation, c'est pas seulement quelque chose que je peux faire, je dois le faire, parce que c'est un quota que Dieu a donné à ma Neshama. Vechol divrei Torah, hu nitzot me'ashrina, ou bifrat var alacha, pardon, ou nitzot me'ashrina, shehi hi dvar Hashem, kilita bigmara, dvar Hashem zo alacha. Chaque mot de Torah, c'est une étincelle de la Shrina. Chaque chose qu'on est en train de chercher, on est en train de chercher les étincelles qui ont été perdues. Alors là, bon, on a un thème Kabbalah, mais je vais le sauter, on va après la parenthèse. Vezeu shamru bigmara. Avec ça, on va comprendre ce qui est écrit dans la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça, elle dit, dans le traité Brachot, au début, pour ceux qui ont étudié le premier chapitre de la Gemara Brachot, ils vont retrouver tout de suite, c'est écrit, Kol haosek batorah. Tout celui qui est osek batorah. Alors, remarquez le terme. On n'a pas dit tout celui qui étudie la Torah. Non, on a dit tout celui qui s'occupe de la Torah. Osek, c'est le même terme que esek. Esek en hébreu, c'est quoi? C'est une affaire, c'est un business. Quelle est la différence entre un business et un loisir? C'est qu'un business, tu mets ta tête dedans. D'accord? Quelle est la différence entre l'employé et le patron? C'est que l'employé, il va dormir le soir, il dit j'ai fait ce que j'ai pu, il dort sur ses deux oreilles. D'accord? Enfin bon, on va pas dormir sur les deux oreilles, mais bon, il dort tranquillement.
J'ai un oreiller bizarre quand même.
J'ai des grandes oreilles.
Mais le patron, même s'il sait, que de toutes les façons, même s'il sait le patron, il sait de toutes les façons que maintenant il n'y a pas de contrat à signer, il est 2 heures du matin, et pourquoi tu dors pas? Il n'est pas tranquille, il est resec. Sa tête est occupée. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara, elle dit, Kol haosek batorah. Tout celui qui est préoccupé par la Torah, ça veut dire en d'autres termes qu'il est en train de rechercher les trésors, comme ce qu'on a expliqué ce soir. Amar Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, c'est la Gemara Brachot qui dit, Dieu il dit, Ma'ale ani alav, je le considère, celui qui est osek, celui qui met toute sa tête dans la Torah, je le considère, Keilu Peda'ani, comme si qu'il m'a racheté de prison, Ve'et Banai, et mes enfants, mi ben Auma Ta'olam, parmi les nations. C'est les mots de la Gemara. La Gemara dit ça. Et tous les commentaires ça veut dire quoi? La Gemara dit, celui qui étudie la Torah, alors elle te dit, Dieu il lui dit, je te considère comme si que tu m'as racheté, moi et mes enfants parmi les nations du monde. Mais quel rapport? Quel rapport entre étudier la Torah? Maintenant on comprend. C'est qui les enfants de Dieu? Les enfants de Dieu, c'est les étincelles de Dieu, les étincelles de Kedusha qui ont été éparpillées un peu partout. Que même Dieu, entre guillemets, est pris par son système, il peut pas les récupérer. Et Dieu dit, Kol haosek batorah, tout celui qui se casse la tête dans la Torah, ça veut dire pour découvrir des choses que personne n'a jamais découvert. Eh ben, dis à Kadosh Baruch Hu, c'est comme si tu m'as libéré de prison. Parce que t'es parti chercher des étincelles que depuis la création du monde, personne n'a pu aller les chercher. Parce qu'elles étaient bloquées par le blocage qu'il y avait avant. Donc, celui d'avant toi, il a fait sauter la barrière d'avant. Toi, tu fais sauter cette barrière. Eh ben, Kadosh Baruch Hu, il te dit, c'est comme si que tu es en train de me libérer, moi, de prison, mi ben haumot haolam, parmi les nations. Tout ça, c'est pour montrer l'importance de l'étude de la Torah. La semaine prochaine, on parlera encore plus de ça. Comment quand on étudie la Torah, on n'est pas passif. C'est pas simplement qu'on étudie, on essaie de comprendre le texte qui a été écrit. On est en train de créer une nouvelle réalité. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'étudier la Torah. Même des fois, quand on étudie la Gemara, des choses qui ne nous parlent pas du tout dans notre vie. On va parler des fois des cas que jamais ça nous concernera dans notre vie. Jamais! D'accord? Et tu l'étudies quand même. Pourquoi tu l'étudies? Parce que le but de l'étudier, c'est pas seulement pour avoir la halakha. Ça, tu veux la halakha, il y a des livres de halakhot. Le but de l'étudier, c'est de chercher des trésors qui correspondent à ma Neshama et qu'il n'y a que ma Neshama qui peut les trouver. Et tant que je ne les ai pas trouvés, ma chair ne pourra pas venir.
Quelle est la différence alors?
La différence de quoi? Hagita bo yomam balaya, là, ça veut dire que tu devras avoir la tête dans la Torah. Ça ne veut pas dire que tu devras être osek batorah comme un businessman. Une personne qui est dans les affaires, si l'affaire ne marche pas, il ne va pas dire, bon écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, ça ne marche pas. On ne réfléchit pas comme ça, c'est l'employé qui parle comme ça. Ça, c'est celui qui dit, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, qu'est-ce que tu veux? Celui qui est dans le business, celui qui fait son affaire, il va être au sec, ça veut dire il lâche pas tant qu'il a pas trouvé. C'est ça, c'est comme quand tu cherches un trésor. Celui qui dit, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas trouvé. Il lit le texte, il lit le commentaire, la Gemara avec Rashi, il comprend pas. Il dit, bon, une fois, deux fois, trois fois, il dit, écoute, j'ai pas compris, tant pis, hein, certainement, il y a d'autres qui ont compris. Ça, c'est celui qui fait comme un employé. Celui qui fait comme un businessman, celui qui fait comme un patron, il dit quoi? Ça veut dire quoi? Un patron, quand on lui dit il n'y a pas de solution, il dit bien sûr qu'il y a une solution, je ne l'ai pas encore trouvée, mais il y a une solution. Et il va se casser la tête, qui va la trouver. Je vais la trouver la solution. Je ne l'ai pas encore trouvée, mais c'est pas grave. Ça me prendra 10 ans pour la trouver, mais c'est pas grave, mais je la trouverai la solution. Parce que je la cherche, c'est mon affaire. C'est mon affaire qui va s'écrouler. Et ben quand on étudie la Torah, c'est la même chose. C'est pas, on ne doit pas se dire, j'étudie un texte, il dit bon, certainement, il savait de quoi il parlait, c'est pas grave. Quand tu as une halakha, tu comprends pas pourquoi, tu dis bon, certainement, celui qui l'a écrit savait de quoi il parlait. Non! C'est mon affaire, je veux comprendre ce qu'il a dit. Tant que j'ai pas compris, je zappe pas. Et ben, quand on étudie comme ça, on va découvrir des choses que l'auteur même du texte, il n'imaginait même pas l'ampleur du texte qu'il a dit. Je finirai avec ça. Vous savez, le rabbi, il a beaucoup commenté sur Rashi. Sur Rashi sur la Torah. Une fois dans un Fabringal, le rabbi, il a posé la question, il a dit, on fait tellement de chidushim sur Rashi, est-ce que ça veut dire que Rashi a pensé à tout ça?
Oui,
il en a choqué. Rashi, il a dit une ligne, tu vois. Et sur une ligne, des fois maintenant, on a des dizaines de pages. Donc tu dis, mais attends, est-ce que Rashi, il a pensé à tout ça sur un mot qu'il y avait des dizaines de pages de commentaires? Le rabbi, il a dit pas forcément. Pas forcément. Rashi, il parlait de Ruach HaKodesh, il parlait avec l'inspiration divine. Parce que Rashi, c'était avec l'inspiration divine. Donc lui, il a écrit les choses telles qu'il les voyait. Mais c'est très possible qu'il y a des trésors que lui-même n'a pas pu trouver. Dans ses propres mots.
Il n'a pas cherché.
D'accord? C'était pas encore le moment. Il y avait trop d'écorce dessus. Il y avait trop d'écorce dessus. Donc lui, Rashi, même s'il cherchait, il n'aurait pas pu trouver. Mais maintenant, avec les 1000 ans qui sont passés depuis que Rashi est parti, d'accord? Il y a eu beaucoup d'écorces qui ont sauté. Donc maintenant, aujourd'hui, quand nous, on va étudier Rashi, on va découvrir des choses que Rashi lui-même n'a pas pu comprendre dans son propre texte.
C'est obligé.
D'accord?
Ça gagne dans la vie.
Sinon, on prend un Rashi, on prend tout de suite.
Exactement.
Et donc, si on comprend pas, c'est
exactement. Mais ça veut dire, le chidouche ici, c'est que je vais trouver des choses que l'auteur du texte lui-même ne pouvait pas trouver. Enfin, lui, il a dit parce qu'il était inspiré, donc il a dit ce qu'il a dit sur l'inspiration. Mais lui-même ne savait pas l'ampleur du texte qu'il a dit. Et ça, chacun de nous doit se dire que chaque fois qu'on étudie la Torah, chacun de nous trouve des nouvelles choses. Ne cherchez pas, on trouve des nouvelles choses. On trouve des nouvelles choses que personne n'a jamais trouvées jusqu'à maintenant. Et Kadosh Baruch Hu nous aide, d'accord? Comme ça, on va se préparer à Matin Torah. Alors, la semaine prochaine, le thème la semaine prochaine, ça va être qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach viendra? Parce que là, voilà, c'est ça le problème. Parce que jusqu'ici, maintenant, on comprend que là, maintenant, on est à la chasse au trésor. On est d'accord? On a bien compris. On a expliqué que la chasse au trésor, tout est important. Même le petit gamin qui est en train de courir pour chercher, c'est important parce qu'il cherche quelque chose qu'il n'y a que lui qui peut trouver. D'accord? Mais la question qu'on se pose, c'est, a priori, quand Mashiach arrive. Si Mashiach arrive, ça veut dire que le trésor a été trouvé. Alors, si le trésor a été trouvé, c'est quoi le travail quand Mashiach arrivera? Ça, c'est la semaine prochaine. Pas du tout, là. J'ai rien dit. C'est même pas un preview ce que j'ai dit. Ah là là, laisse tomber. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Là maintenant, on cherche quelque chose, mais une fois qu'on a trouvé.
On va trouver la première porte.
Mais à quoi ça sert une fois que tu l'as trouvé maintenant? Tu sais où elle est la porte?
Un autre travail à faire.
Non, ça marche pas comme ça. Une fois que tu as trouvé, c'est quoi le travail? Ça, c'est